Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texa. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Le PSG prend rendez-vous à Budapest le 30 mai en quête d'une deuxième étoile qualifiée pour sa troisième finale de Ligue des Champions après avoir écarté le Bayern Munich hier soir. Un homme de 23 ans, principal suspect dans la mort d'une collégienne de 14 ans, tué dans l'Aisne à l'arme blanche. Nous serons sur place dans ce journal et vous entendrez le témoignage d'une passagère du MV Ondus, ce bateau de croisière en route pour les Canaries en raison d'une contamination à l'antivirus.
Munich a encore une fois souri au PSG.
Un an après leur sacre européen en Bavière, les Parisiens ont cette fois décroché leur ticket pour leur deuxième demi-finale consécutive de Ligue des Champions sur la pelouse du Bayern Munich. Les Parisiens font match nul hein, partout, ça fait 6-5 sur l'ensemble des deux matchs. Scène de liesse hier soir dans la capitale à l'issue de la rencontre, comme ici, place de la Concorde.
J'ai plus de klaxon, il marche plus, j'ai plus de voix, mais on est content, c'est carré. Je savais on allait gagner, je savais on allait se qualifier. Maintenant on va chercher la deuxième et c'est fini.
Paris et en feu, on va gagner avec des champions la famille. C'est incroyable ce qui se passe. Arsenal, non, c'est petit, c'est calme Arsenal, on va les éteindre.
Et vous l'aurez compris, les supporters du PSG sont impatients à l'idée d'affronter Arsenal le 30 mai prochain dans cette finale à Budapest. Jean-Louis Tour, vous êtes avec nous ce matin en direct de Munich. Il y a des raisons d'être optimiste au vu de la montée du PSG qui impressionne.
Oui, le PSG qui va se présenter avec le costume de favori pour cette finale à carte tenant du titre, d'abord. Ensuite, parce que cette équipe semble encore plus forte que la saison dernière, grâce à la confiance du vainqueur. Les matchs contre Chelsea, Liverpool et désormais le Bayern Munich peuvent le confirmer. Le Bayern qui était l'équipe la plus impressionnante de la saison. Les Parisiens pourront aussi se rappeler de la saison dernière, des deux victoires contre Arsenal en demi à l'aller comme au retour. Et autre argument en leur faveur, la fraîcheur. Ils seront peut-être champions ce week-end. Luis Enrique pourra ainsi faire reposer les titulaires, gérer le retour de blessure d'Achraf Hakimi, alors qu'Arsenal a encore 3 matchs à disputer d'ici au 30 mai, sans pouvoir se relâcher, car ils ont pour la première fois depuis 2004 la perspective d'être champion d'Angleterre. Alors malgré tout cela, le statut de favori ne fait pas tout dans une finale, il faudra qu'ils restent prudents, les Parisiens humbles, pour reprendre les mots de Désiré Doué, face à une équipe plus calculatrice, moins joueuse qu'il y a quelques mois, et qui ne laissera pas facilement les Parisiens garder la Ligue des Champions pour la deuxième année de suite.
Une finale que les supporters parisiens pourraient, contrairement à l'an dernier, suivre dans une fan zone. C'est en tout cas la volonté du maire de Paris, Emmanuel Grégoire, qui souhaite sécuriser l'événement. Hier, au moins 6 personnes ont été interpellées en marge de débordement. 2 autres blessées à la main après l'utilisation d'artifices. On espère ce soir un deuxième club français en finale d'une Coupe d'Europe. Ce soir sur RMC, 21h, la Ligue Conférence. Strasbourg partira avec un but de retard face au Rayo Vallecano. Il est 8h03, vous écoutez RMC. On part dans l'Aisne maintenant, où une adolescente de 14 ans a été tuée hier matin, mortellement blessée de plusieurs coups portés à l'arme blanche. Ça s'est passé à Fère en Tardenois, commune de 2800 habitants à l'ouest de Reims. Sur place et en direct ce matin, Pierre Bazin du service police-justice RMC. Dans cette affaire, Pierre, un homme de 23 ans a été interpellé. Il vient de passer sa première nuit en garde à vue.
Oui, selon la procureure de la République de Soissons, il s'agit d'un homme sans emploi qui vit chez ses parents. Et même si presque 10 années le séparent de la jeune victime âgée de 14 ans, le suspect pourrait être un ex-petit ami de la collégienne. Les enquêteurs le soupçonnent donc d'être l'auteur des nombreux coups de couteau reçus par la victime alors qu'elle se rendait au collège en empruntant un petit chemin forestier, un raccourci bien connu des élèves qui passent chaque jour par cette petite zone boisée. Ce matin, devant l'établissement, c'est en présence de gendarmes et souvent accompagnés de leurs parents que les élèves se rendent en cours. Du personnel de l'éducation nationale a été déployé, tout comme une cellule d'urgence psychologique afin de recueillir la parole de ceux qui auraient besoin de se confier. Le rectorat assure que les cours vont reprendre normalement dans quelques minutes.
Pierre Bazin en direct de Fère en Tardenois pour RMC. La course contre la montre est lancée. Les autorités sanitaires traquent l'antivirus à la recherche de cas contacts. Parmi eux, il y a un Français. Le risque de contamination mondiale est faible, rassure le chef de l'OMS, alors que la maladie a tué 3 personnes à bord d'un bateau de croisière. Le MV Ondus, attendu samedi aux Canaries. Ses passagers seront débarqués lundi, rapatriés dans leurs pays respectifs. Parmi eux, il y a cette femme contactée par nos confrères de BFM TV. Elle nous raconte la vie à bord du bateau.
Il y en a certains, je vois, qui minimisent les choses. Il y a eu un grand barbecue sur le bateau, comme si de rien n'était. Alors, il y a la distanciation sociale, mais c'est depuis 3 jours hein, seulement. Et le port du masque aussi est obligatoire, encore qu'il y en a des tas qui ne le mettent pas. Après, on fait ce qu'on veut hein, sur le bateau. On nous dit d'être raisonnable. Voilà. Quand on a des communications maintenant, c'est par haut-parleur dans les chambres. Mais avant, nous rassemblait tous dans le salon, et cela jusqu'à dimanche. Toutes les mesures qui sont prises actuellement sont bonnes, mais elles ont été prises dimanche, c'est-à-dire trop tard.
En mer toujours, le porte-avions Charles de Gaulle est arrivé en mer Rouge, déployé en vue d'une possible opération de sécurisation du détroit d'Ormuz. En tout cas, la volonté d'Emmanuel Macron, qui veut envoyer un signal, être prêt et capable de le faire dans le cadre d'une coalition internationale. Et la France, Thomas Blecker, de réclamer un traitement tout particulier de la question du détroit en raison de son intérêt commun.
Oui, et pour que cette mission voie le jour, l'Élysée pose ses conditions. Obtenir des États-Unis une levée du blocus qui pourrait permettre aux Iraniens de faire circuler leurs navires et exporter du pétrole, et en échange que les Iraniens s'engagent à entrer en négociation avec les États-Unis sur les dossiers les plus sensibles, le nucléaire, les missiles et la stabilité dans la région. Dans ces conditions, le chef de l'État propose de sécuriser le détroit avec la marine française et les pays alliés. C'est dans ce contexte que le porte-avions Charles de Gaulle est arrivé en mer Rouge, positionné pour réduire les délais si une intervention se décidait. C'est ce qu'a rappelé Emmanuel Macron lors d'un entretien téléphonique hier avec le président iranien. Cela montre qu'on est opérationnel, souligne un conseiller du président. Encore faut-il attendre une réponse des deux pays impliqués dans le conflit. Les États-Unis et l'Iran nous écouteront parce qu'on a raison, parie l'Élysée.
Et il y a de l'optimisme ce matin du côté de Donald Trump qui juge possible un accord avec l'Iran, qui continue d'étudier la proposition américaine, des mots qui rassurent en tout cas les marchés. C'est le cas du pétrole dont le cours a chuté ce matin autour des 100 dollars, pas suffisant et encore trop tôt pour voir une diminution des prix de l'essence en France au plus haut depuis le début du conflit et sous l'effet de la guerre. Une tendance, la baisse des dons aux associations, recul de 3% au premier trimestre de l'année par rapport à l'an dernier selon la Fondation Apprenti d'Auteuil que vous révèle RMC ce matin. Et en 2025, les donateurs s'étaient déjà montrés moins généreux qu'auparavant. 47% des Français avaient donné contre 52% en 2024. Cela s'explique par un contexte économique difficile. Martin Bourdin, Amélie Courtet.
Pas vraiment fier de lui, du haut de ses 48 ans. Manuel l'avoue.
Je donne plus. Non, j'ai honte.
Des dons, il en a pourtant longtemps fait, mais trop dur désormais pour ce père de famille de soutenir les associations.
Trois enfants, vie compliquée. Et donc c'est plus compliqué de donner. Donc oui, j'ai donné, mais je donne plus.
Et même pour ceux qui continuent de donner régulièrement aux associations comme Marie-Claude.
Ça va être les Restos du Cœur, ça va être l'UNICEF.
Le budget don a bien maigri depuis quelques mois.
Effectivement, on a moins donné que les années précédentes. Les sommes étaient moins importantes. De moitié, on va dire à peu près. Sur une somme de 20 euros, on passe à 10 euros. L'idée, c'est quand même le principe de solidarité, donc de donner quand même, d'essayer de faire un geste. Mais malheureusement, on ne peut plus donner autant qu'avant.
Et ça, c'est un vrai risque que pour beaucoup d'associations, les plus petites notamment, explique Justine Murcier du groupe SOS qui fédère plusieurs associations.
Il y a des associations qui sont déjà concernées par des licenciements et par l'arrêt de certains programmes.
En fin d'année dernière, une association sur trois était menacée de disparition faute de financement, d'après la Fédération des acteurs de la solidarité.
Et puis un rendez-vous sur RMC après Paul Sexa, Sierra Armand, Duplantis, recordman du saut à la perche et l'invité cet après-midi du super Moscato Show. Rendez-vous sur RMC à 15h.